Mola, archive sonore.
Cher Jean d'Ormesson, nous allons reprendre une conversation que nous avons entamée il y a bien longtemps déjà. Je m'inquiétais un peu, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me demandais est-ce qu'il en a pas marre de toujours bavarder avec Jean-Marie Plane quand il va à Bordeaux. Il y a peut-être d'autres Bordelais, n'est-ce pas, avec qui il aurait... C'est un peu coquet ce que je dis là, mais enfin c'est pas rien. Il y a peut-être d'autres Bordelais avec qui il aurait plaisir à parler. Alors qu'est-ce que vous m'avez répondu?
D'abord, je voudrais me demander si c'est pas plutôt Bordeaux qui en a un peu marre de moi. Et ensuite, je voudrais saluer et remercier Jean-Marie Plane. Ce n'est pas que nous soyons aux Oscars et que je remercie toute l'équipe. D'abord, je remercie toute l'équipe Mola. Je vous remercie d'être si nombreux. Mais je voudrais dire à Jean-Marie Plane, écrivain de Bordeaux, bientôt écrivain de Madagascar, combien je suis heureux et fier d'être à ses côtés. Je voudrais le remercier de son amitié.
Bon, voilà. Maintenant que j'ai un peu d'encens,
c'est ce qu'on appelle en latin captatio benevolentiae.
On va reprendre la conversation qui s'est interrompue après la publication du premier volume de Une autre histoire de la littérature française. Et bien sûr, à ce moment-là, nous avions parlé ici même de ce livre. Et naturellement, je vous avais fait une remarque qu'à peu près tout le monde vous faisait. Il y a des écrivains qui manquent. Pourquoi n'y a-t-il, je me souviens, vous avez dit, pourquoi n'y a-t-il pas Toulet, Paul-Jean Toulet, que vous adorez, pourquoi n'y a-t-il pas tel ou tel? Et alors, est-ce que c'est pas une critique, c'était une remarque qui vous a été naturellement souvent faite lors de la publication du premier volume de ce livre. Est-ce que c'est cette remarque qui vous a conduit à publier, exclusivement cette remarque qui vous a conduit à publier un second volume?
Alors, il est tout à fait vrai qu'après le premier volume, j'ai reçu beaucoup de lettres, toutes amicales. Quand on écrit les articles, on reçoit souvent des lettres d'approbation et de désapprobation. Le dernier article que j'ai écrit dans le Figaro, je l'ai écrit sur la statue de Churchill qu'on vient d'édifier à Paris. Et j'ai reçu un assez grand nombre de lettres d'approbation et j'ai reçu un certain nombre de lettres qui m'ont ému, qui étaient violemment hostiles. Et qui venait de personnes dont le père, le mari, pas le fils, parce que je pense que les personnes seraient mortes, avaient été tués à Mercel-Kébir. Et c'est vrai que Mercel-Kébir a été un drame. Il y a eu 1500 morts à Mercel-Kébir. Et ces lettres m'ont évidemment touché, ému, je leur ai répondu naturellement. Quand on écrit les livres, on reçoit presque uniquement des lettres d'approbation, des lettres d'amitié. Et j'ai reçu un grand, grand nombre de lettres après le premier volume, mais une sur trois ou une sur quatre disait « Alors, vous n'aimez pas Hugo ?» Et il y avait une variante, c'était très drôle, je savais en ouvrant les lettres ce qu'il allait y avoir dedans. Ou « Alors, vous n'aimez pas La Fontaine ?» Alors, le deuxième volume, c'est la même chose que le premier, avec Hugo et avec La Fontaine, et avec quelques autres aussi. Ce ne sont pas ces lettres qui m'ont décidé à écrire le deuxième volume. Je savais, en écrivant le premier volume, ou même avant le premier volume, qu'il y aurait un deuxième volume. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible de faire tenir, je ne dis pas l'ensemble de la littérature française, mon ambition n'était pas de faire un tableau exhaustif de la littérature française. Je ne suis pas Sainte-Beuve, je ne suis même pas Faguet ou Lemaître. J'essayais de donner un aperçu de la littérature française. Et cet aperçu était évidemment impossible avec 40 portraits d'écrivains. Peut-être avec 80 écrivains, on s'approche de quelque chose qui peut ressembler à un brouillon d'esquisse de la littérature française. Il y a encore des lacunes, je m'en rends très bien compte. Je ne parle pas de Vauvenargue, que j'admire beaucoup. Je ne parle pas d'Anatole France, d'un peu Armor. Je ne parle pas de Barrès. Je ne parle pas de Giraudoux. Je ne parle pas de blonde, hein, qui méritait peut-être quelques pages.
J'ai remarqué que vous citiez à diverses reprises Cocteau, bien entendu, mais que vous n'aviez pas consacré d'études à Cocteau.
Bien sûr, plein chant, c'est admirable. On pourrait réciter un peu de plein chant, c'est très très beau. Mais enfin, avec ces deux volumes, il y a une sorte de vue d'ensemble de la littérature française. Alors, évidemment, on peut me dire, alors est-ce qu'il y aura un troisième volume ? Alors, ne mettons pas de borne à la bienveillance ou à la malédiction divine. En tout cas, si nous nous voyons, mon cher Jean-Marie, ce sera un bonheur pour moi et un honneur pour moi. Ça ne sera probablement pas pour le troisième volume, parce que j'avais interrompu pour faire ces deux volumes de l'histoire de la littérature, j'avais interrompu un roman que je voudrais reprendre, dont j'ai déjà écrit... Peut-être je vais faire passer un petit frisson. J'ai déjà écrit l'introduction de ce roman. L'introduction comporte 400 pages. Alors je voudrais achever ce petit roman pour pouvoir vous le présenter autour de l'an 2000, un peu avant l'an 2000 ou un peu après l'an 2000. Donc voilà ce qui m'occupera. Mais peut-être après, y aura-t-il un troisième volume. J'avais pensé peut-être à un volume qui s'appellerait « Rebelle et réprouvé » ou « Réfractaire et réprouvé ». Vous voyez tout ce qu'on pourrait mettre dans ce volume depuis Théophile de Viau, qui écrit des poèmes admirables, d'une obscénité redoutable d'ailleurs, jusqu'à Léon Blois ou Léon Daudet, qui découvre, Léon Daudet découvre rien que ça, il découvre Proust, il découvre Céline et il découvre Bernanos. Quand même pas si mal.
Beau tableau de chasse. Alors, alors, vous commencez par les questions qui viennent habituellement à la fin. Quels sont vos projets ? C'est généralement comme ça que se termine un entretien.
Je voulais pas vous saboter.
Vous me sabotez absolument mon boulot, là. Alors, revenons à une autre histoire de la littérature française. Et je voudrais vous reposer une question que j'ai probablement posée au moment de la parution du premier volume, mais qui est quand même importante. Longtemps, la tradition universitaire a été d'étudier l'homme et l'œuvre. Il me semble même qu'il y avait une collection consacrée aux écrivains qui s'appelait l'homme et l'œuvre. Et puis, et souvent d'ailleurs, ça consistait à éclairer l'œuvre par la vie de l'homme. Et puis il y a eu alors, à partir du structuralisme, une autre tendance qui, elle, ne voulait prendre en considération que l'œuvre seule, n'est-ce pas ? On a l'impression que vous, ce qui vous intéresse, c'est peut-être beaucoup plus la vie que l'œuvre. Et la plupart de ces chapitres, de ces études, de ces analyses, prennent d'abord en considération la vie, à la faveur d'ailleurs souvent de ce genre littéraire particulier qui est l'anecdote et que vous appréciez particulièrement vous-même. Alors, pourquoi la vie d'abord ?
Alors, je voudrais vous faire une réponse à la manière des hommes politiques. Il y avait une réponse de Marchais dont j'étais fou à la télévision, que j'adorais. C'était... quand il faisait ça merveilleusement bien, quand le général de Gaulle faisait exactement la même chose. Vous vous rappelez tous le général de Gaulle, quand il disait « J'ai entendu quelqu'un qui m'a posé une question, personne n'avait posé cette question. » Mais le général avait envie de donner cette réponse. Et Marchais avait exactement la même formule. Il disait à El Kabach, je crois, il disait « Vous venez... avec vos questions, je viens avec mes réponses. » Et une autre formule des hommes politiques, c'est « Je vous remercie de cette question. » Eh bien, je vous remercie de cette question parce que je voudrais dire ici, tout à fait clairement, et vraiment avec sérieux, que ce qui est important dans la littérature, c'est l'œuvre. Et je défendrai volontiers l'idée que tout le reste n'a pas d'importance. Je suis de ceux qui pensent que la biographie d'un romancier se limite à ses œuvres. et que ce qu'il y a d'important chez un écrivain, c'est l'œuvre. J'irais même assez loin dans la fameuse querelle entre Sainte-Beuve et Proust. Vous savez, en gros, Sainte-Beuve disait « Quand vous connaissez la vie d'un écrivain, vous connaissez l'essentiel de l'écrivain. » Et Proust répondait que « Quand vous connaissez la vie d'un écrivain, vous ne connaissez rien de l'écrivain, car c'est un autre personnage que l'homme social qui écrit. »
Les œuvres sont le fruit d'un autre moi que celui
voilà,
qui écrit.
C'est ça. Eh bien, je suis entièrement du côté de Proust. À tort ou à raison, je crois beaucoup à cette vie propre de l'œuvre. Et c'est vrai que je parle beaucoup dans ce livre de la biographie. Je voudrais vous rappeler que non seulement Proust employait cette formule que vous avez rappelée, mais que Paul Valéry avait une idée bien intéressante. C'était d'écrire une histoire de la littérature sans un seul nom d'écrivain. C'est-à-dire de faire une sorte d'histoire hegelienne de la littérature, une histoire de la création littéraire et des formes littéraires. Et c'était très intéressant car on aurait vu que partout, et est-ce qu'il y a une pente naturelle de l'esprit qui suit des lois qui sont permanentes, ce qui n'est pas tout à fait exclu. La littérature commence avec deux catégories de textes extrêmement claires. Des textes destinés aux dieux et aux rois, qui se confondent d'ailleurs, comme en Égypte par exemple, et destinés à compter les moutons ou les poteries ou les instruments du commerce, c'est-à-dire Dieu et l'argent. Tout de suite. Ensuite, vous avez les grandes épopées. Vous avez Gilgamesh, vous avez les grandes épopées indiennes, vous avez l'Iliade et l'Odyssée. Ensuite, vous avez l'invention de génie de la littérature grecque, les tragédies. Ensuite, vous avez les grands poèmes, l'Iliade, l'Odyssée, l'Énéide, vous pouvez rattacher la Divine Comédie. Et ensuite seulement, très tard, apparaît le roman. Naturellement, il y a des ancêtres du roman. Il y a un roman grec, il y a Lucien de Samosate ou Apulée, d'ailleurs l'un traduit l'autre. Vous avez, non pas le roman de la rose, vous savez que le roman de la rose, c'est de la poésie. C'est de la poésie, le roman de la rose. Mais vous avez les grands romans du cycle arthurien, la matière de Bretagne. Mais le vrai roman, on sait bien où il commence. Il commence avec Rabelais et avec Cervantes. Et d'ailleurs, le roman commence avec la dérision. Rabelais est un roman comique, Cervantes est un roman comique. Et si on remonte à Apulée et à Lucien de Samosate, l'Andor est un roman comique. Et le roman commence avec la dérision. On ignore le ciel, les héros, les dieux, et on descend chez les hommes et on les considère avec ironie. Eh bien, cette histoire des formes littéraires serait quelque chose de passionnant. Évidemment, j'ai essayé de faire le contraire. J'ai essayé de considérer l'ensemble de la littérature française comme une sorte de grand roman dont les héros seraient les écrivains. Et donc, pour arriver à cette espèce d'allégresse un peu ironique, admirative naturellement, mais ironique, eh bien, je raconte beaucoup d'anecdotes. Je m'occupe beaucoup de la biographie. J'essaye de trouver les anecdotes qui éclairent les personnages, n'est-ce pas ? Il y a des anecdotes qui ne sont pas très significatives. Par exemple, quand je parle de Yourcenar, il y a une anecdote qui m'est venue évidemment à l'esprit, qui est peut-être venue à l'esprit de quelques-uns, mais je parle pas trop, non, Jean-Marc ?
Mais non, très bien.
J'ai pensé à l'entrée de Marguerite Yourcenar à l'Académie française. C'est une anecdote à laquelle j'étais mêlé, d'ailleurs. Vous savez, avant l'entrée de Marguerite Ursenard à l'Académie française, j'étais charmant, très gai, j'avais une très bonne santé. Puis je suis tellement battu pour Marguerite Ursenard que je suis devenu revêche et acariâtre. Mais je me suis dit très très vite que cette anecdote n'était pas très intéressante. Elle n'éclaire pas Marguerite Ursenard. Ce qui éclaire Marguerite Ursenard, par exemple, c'est sa haine du bonheur. Ça, c'est intéressant. Ça va à contresens de l'époque. L'époque aime beaucoup le bonheur, le roman photo. Marguerite Ursenard déteste ça, elle déteste le bonheur. Il y a une anecdote qui m'a paru intéressante, Jean-Paul Sartre qui pisse sur la tombe de Chateaubriand. Non seulement parce que ça me fait de la peine qu'on pisse sur la tombe de Chateaubriand, mais parce que ça va beaucoup plus loin que la simple anecdote. Il faut se rappeler que Sartre était hostile à l'idée du grand écrivain. C'est tout à fait clair à la fin du plus beau de ses livres, à mon sens, qui est « Les mots ». Où il y a la dernière phrase des mots que vous connaissez tous, un homme qui est n'importe quel homme, qui est égal à tous les hommes, qui vaut tous les hommes et que tous les autres valent. C'est le refus du thème du grand homme et le refus du thème du grand écrivain. Si vous mettez ça ensemble avec le fait qu'il pisse sur la tombe de Chateaubriand, il est tout à fait clair qu'il pisse sur sa propre tombe. Sartre ne veut pas être un grand écrivain. Et il se trouve qu'il est peut-être le dernier de nos grands écrivains. Vous savez tous que Victor Hugo, en 1884, a 1 million de personnes à son enterrement. Et 9 mois après l'enterrement de Victor Hugo, la courbe démographique française à Paris marque un décrochement très très net, une montée très très nette. 9 mois après l'enterrement de Victor Hugo, les naissances de Paris ont été anormalement nombreuses. La mort de Victor Hugo a été une espèce d'orgie dont tous les témoins de l'époque le marquent. Le bois de Boulogne était plein de pompiers et de bonnes, et les dames du monde faisaient la même chose chez elles, et ça a été un événement formidable. Eh bien, l'enterrement de Sartre, c'est moins. Il n'y a pas 1 million de personnes. Mais enfin, il y a 50 000 personnes à l'enterrement de Sartre. Si vous venez à 300 ou 400 à mon enterrement, je vous serai déjà extrêmement reconnaissant. Sartre, évidemment, est le dernier de nos grands écrivains. Tout le monde sait que Gide est le dernier de nos maîtres à penser. Et d'ailleurs, le même mouvement, on écrirait une histoire de la littérature sérieuse à la façon de Valéry. Ce serait tout à fait intéressant. Gide est le dernier des maîtres à penser et il dit « Nathanaël, jette mon livre ». Sartre est le dernier des grands écrivains et il pisse sur la tombe de Chateaubriand pour pisser symboliquement sur la sienne. Alors ça, ce sont des anecdotes qui me paraissent intéressantes. Mais une fois encore, si je raconte ces anecdotes, si je montre la vie des écrivains qui est si passionnante, si tumultueuse, avec les femmes dans la vie de Chateaubriand, les casses et les assassinats dans la vie de Villon, les aventures formidables de la vie de Genet, c'est uniquement pour essayer de ramener à l'œuvre ceux qui ont oublié la littérature ou pour essayer d'amener à la littérature ceux qui n'en ont aucune idée.
Alors, l'œuvre, la littérature, pour vous, elle se résume en un mot, qui est le style. Il y a une très jolie phrase dans l'avant-propos. Il y a quelque chose de presque indéfinissable, quelque chose d'obscur et de lumineux qui règne sur la littérature. Ce quelque chose est le style. Ce qui vous intéresse, ce ne sont pas les personnages, ce n'est pas la construction, ce n'est pas le genre littéraire, ce n'est pas l'invention, c'est le style.
Vous avez tout à fait raison. J'ai mis ce livre, ces deux volumes, sous l'invocation de deux mots. Et ce n'est pas pour faire de la publicité, c'est parce que je crois beaucoup à ces deux mots. L'un est le mot plaisir et l'autre est le mot style. Alors je voudrais m'expliquer brièvement là-dessus. Sur le plaisir, je crois que la littérature est un plaisir. Je pense qu'on en a déjà dit un mot il y a un an, donc je reviendrai brièvement là-dessus. Encore une fois, il n'y a pas de devoir de culture. Si vous voyez quelqu'un mourir de froid dans la rue, je crois que vous avez une sorte de devoir de l'aider. Les chrétiens appellent ça la charité, ceux qui ne sont pas chrétiens appellent ça la solidarité. Je crois qu'il y a un devoir. Peut-être, ou sûrement, il y a un devoir de permettre à tous d'accéder à la culture. On ne peut pas garder la culture pour ceux qui, comme moi, sont des privilégiés et qui ont eu toutes les facilités pour accéder à la culture. Peut-être que le seul mérite que je me reconnais, c'est de ne pas avoir transformé ces facilités qui m'étaient données en parties de golf ou en yachting. Si vous avez des privilèges, mieux vaut les tourner du côté de la culture. Mais vous avez aussi le devoir de permettre l'accès de tous à la culture. Mais la culture elle-même n'est pas un devoir. Si lire vous ennuie, mais mon Dieu, ne lisez pas, personne ne vous le reprochera. Je crois que c'est Villiers-l'Isle-Adam qui est en train de mourir et qui demande à son médecin « Est-ce que je suis perdu ?» Et le médecin, comme d'habitude, lui dit « mais non, on va vous tirer de là. » Et Villiers lui dit « Je veux la vérité. Est-ce que je suis perdu ?» Et le médecin lui dit « Oui, vous êtes perdu. » Alors Villiers lui dit « Alors je peux vous le dire, Dante m'a toujours emmerdé. » Eh bien, si Dante vous emmerde, ne le lisez pas. Ce que j'essaye de montrer, c'est que lire est un plaisir. Et naturellement, il y a des degrés différents de plaisir. Il y a un plaisir à lire Feydeau, il y a un plaisir à lire Labiche, il y a un plaisir à lire Courteline. J'ai hésité à mettre Labiche ou Courteline. Je le mettrais volontiers dans un troisième tome. Et il y a des plaisirs qui demandent un peu d'effort. Pour lire Homère, pour lire Virgile, pour lire Dante, peut-être pour lire Rabelais ou Cervantes, il faut un petit effort. Mais vous savez, quel est le plaisir qui ne demande pas un effort? Oui, j'imagine qu'il doit y avoir des plaisirs qui ne demandent pas trop d'efforts. Mais enfin, même faire du ski, j'aime beaucoup faire du ski, il faut apprendre à faire du ski. Il faut même apprendre à nager. Et il faut apprendre à comprendre et à aimer la littérature. Donc voilà pour le plaisir. Mais je me suis dit que le plaisir ne suffisait pas. Si le plaisir était le seul critère de la littérature, on ne déborderait pas beaucoup le roman policier ou le théâtre comique. Il y a autre chose. Et quelle est cette autre chose? Eh bien, je crois que c'est le style. Et le style explique l'échec du jeune homme ou de la jeune fille ou de la dame plus âgée ou de monsieur plus âgé qui viennent vous trouver ou qui vont trouver un éditeur et qui disent « J'ai connu un grand amour et je vais le raconter dans un roman » ou « Ma vie est un roman et je vais la raconter » ou « J'ai une idée et je vais faire un essai ». Eh bien, on n'écrit pas un bon livre, il faut se mettre ça dans la tête, avec une bonne aventure, avec un grand amour, avec une passion ou avec une idée. C'est la même chose que pour la peinture. Il y a une fameuse réponse de Degas à un jeune homme qui vient le trouver et qui dit « J'ai une idée pour une peinture, pour un tableau. » Et Degas lui répond « Apprenez qu'on ne peint pas avec des idées, on peint avec des formes et avec des couleurs. » Eh bien, on n'écrit pas avec des passions ni avec des idées. S'il y a une passion ou une idée derrière, c'est mieux. Mais on écrit, avec quoi est-ce qu'on écrit? Eh bien, je vais vous dire un secret, on écrit avec des mots. Et ce n'est pas tout à fait surprenant. Si vous faites de la musique, vous faites de la musique avec des notes. Et si vous faites de la peinture avec des formes et avec des couleurs. Si vous écrivez, c'est avec des mots. Et la littérature ne consiste pas à exposer des idées. On expose très bien des idées au Collège de France, on expose très bien des idées aux sciences morales et politiques. Les passions, c'est très très bien, les passions, c'est épatant, mais c'est pas ça qui fait la littérature. Ce qui fait la littérature, c'est de trouver des mots et de les combiner. Et pour exprimer quelque chose, il n'y a qu'un seul mot. Il y a un seul mot qu'il faut trouver. C'est d'ailleurs encore Paul Valéry qui dit « Entre deux mots, M-O-T-S, il faut choisir le moindre. » Et il faut trouver le mot exact. Il faut, je pense, supprimer les adjectifs. Il faut écrire de la façon la plus sèche possible. Il faut écrire, il faut écrire comme Montaigne. Comme Montesquieu, mon Dieu, est-ce que je vais citer uniquement les Bordelais ? Il faut écrire comme Mauriac, il faut écrire comme Stendhal, il faut écrire comme Monterland, il faut trouver un style. Et je suis persuadé que ce qui reste d'un écrivain, c'est le style. Prenons encore un exemple d'un grand écrivain. Et alors, ce qu'il y a de troublant, c'est que les grands écrivains, finalement, c'est pas pour reprendre les arguments des surréalistes, mais c'est tout à fait frappant. Verlaine le dit, les surréalistes le disent, mais c'est vrai pour tous les écrivains. Je finis par croire que les grands écrivains sont ceux qui se moquent de la littérature. Et naturellement, trop aimer l'éloquence, c'est mauvais. Mais peut-être que trop aimer la littérature, c'est mauvais. Et je prendrai comme exemple non seulement Stendhal, qui, vous savez que Stendhal disait « il faut écrire comme le code civil », mais un exemple peut-être un peu plus subtil, c'est Saint-Simon. Saint-Simon non seulement écrit de façon invraisemblable, la littérature ne l'intéresse pas du tout, il se veut historien, n'est-ce pas ? D'ailleurs, il ne l'est pas. Il est d'une partialité révoltante, n'est-ce pas ? Et non seulement il ne tient que par le style, mais tout ce qu'il nous raconte, et Saint-Simon est un auteur extraordinairement moderne, mais tout ce qu'il nous raconte, on s'en fiche complètement. L'histoire des préséances des duchesses, mais on s'en fiche complètement. L'histoire des tabourets, mais c'est ridicule. Et il ne tient que par la magie du style. Et c'est ça qui est formidable chez lui, c'est le style. Alors je crois qu'avec le plaisir et avec le style, vous commencez à avoir une idée de ce qu'est la littérature. Alors naturellement, qu'il y ait derrière de la passion, qu'il y ait derrière des idées, tant mieux.
Le style, justement, l'exemple de Saint-Simon est très intéressant. Je crois que c'est un des chapitres les plus longs avec Rousseau. Et l'exemple de Saint-Simon est très intéressant parce que vous venez de le dire, il se moque de la littérature, ça n'est pas, son objectif n'est pas d'être un écrivain. Et il se moque de la correction syntaxique, de la correction lexicale, il s'en fiche complètement. Et alors, le style, c'est autre chose que le respect de la langue et de ses lois.
Alors, écoutez, ça, c'est vraiment amusant parce qu'on va arriver là, on va arriver à des problèmes vraiment actuel et intéressant. Alors, reprenons un exemple comme Saint-Simon. Il y a un autre exemple, et vous remarquerez que je ne choisis pas Rimbaud, c'est tellement évident qu'on ne va pas en parler. Je prends des classiques. Madame de Sévigné, elle s'en fiche complètement. C'est un grand écrivain. Mais si on l'avait dit à Madame de Sévigné, vous serez un grand écrivain, mais elle aurait éclaté de rire. Qu'est-ce qu'elle fait, Madame de Sévigné ? Elle écrit des lettres à sa fille, c'est tout. Et ses lettres sont géniales. Et elle écrit admirablement bien, mais je vous assure qu'en écrivant les milliers de lettres, enfin peut-être en tout cas plus d'un millier de lettres à sa fille, elle ne se dit pas « est-ce que j'écris bien ?» Elle se dit « j'écris à ma fille parce que je suis désespérée de ne pas être avec ma fille. » Et d'ailleurs, Saint-Simon n'est un grand écrivain que 150 ans après sa mort. Et Madame de Sévigné est découverte bien après sa mort et elle aurait été stupéfaite de se voir au rang des grands écrivains. Et alors, la correction de la langue, c'est si peu de choses. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'Académie ? On parle de la correction de la langue. Et est-ce que ça a un sens pour la littérature ? Mais aucun. Mais aucun. C'est très amusant, là, les règles de la grammaire. C'est épatant, l'académie. Oh, c'est absolument épatant. La langue, c'est très, très bien. Et en un certain sens, il faut garder une certaine cohérence de la langue. Il y a un péril de Babel. C'est vrai qu'il y a il faut conserver la langue comme un patrimoine. Alors, je ne vais pas me mettre à parler de la langue parce qu'on est là encore. La langue commence il y a 1000 ans. Nous avons tous en nous une espèce de trésor qui est la langue. Vous savez quand commence la langue? D'abord, quand est-ce que les hommes commencent à parler? Eh bien, nous n'en savons rien. Nous n'en savons rien parce que les anthropologues et les préhistoriens on trouve des témoignages matériels, mais ils ne peuvent pas. Ils peuvent vous dire avant quand les hommes ne pouvaient pas parler, parce qu'ils n'avaient pas. On trouve dans les fossiles, on trouve qu'ils n'ont pas les organes nécessaires pour parler. Mais une fois que l'homme a les organes nécessaires pour parler, il n'est pas sûr qu'il se mette tout de suite à parler. On sait que. Bon, vous voulez qu'on dise quelques chiffres? Vous savez que le Big Bang a 15 milliards d'années. Vous savez que le Soleil et la Terre, tels qu'ils sont actuellement, ont 5 milliards d'années. Et vous savez que le Soleil est au milieu de sa course. Donc vous savez que nous en avons encore pour 5 milliards d'années. Après, plus rien. Fini. On ne vivra plus sur cette Terre. Peut-être qu'on vivra ailleurs. Hein, on ne vivra plus sur cette Terre. 4 milliards d'années, le début de la vie. Et puis alors ça va très très vite, 3 millions d'années le début de l'homme. Bon, disons le feu, qu'est-ce qu'on dirait, 500 000 ans peut-être. La langue, nous ne savons pas, est-ce qu'on parle avant ou après le feu? Moi je ne sais pas, je ne suis pas sûr qu'on le sache. Ce que nous savons, c'est l'écriture. L'écriture, vous savez de quand ça date? Très très peu de temps, 5000 ans. Il y a 5000 ans, la première écriture, Mésopotamie. Et la langue française, alors c'est très très simple, 1000 ans. C'est Charlemagne. Alors, est-ce que vous savez quelle langue écrivait Charlemagne? Alors, je vais vous répondre, aucune. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas écrire. Charlemagne, qui crée l'école en France, ne sait pas écrire. Il ne sait pas écrire. Alors, qu'est-ce qu'il parle? Il parle latin, naturellement. Je ne sais pas si je pense qu'il comprend le grec. Non, il faudrait demander à Madame de Romy. Il parle une langue qui s'appelle le francique. Et puis alors Charlemagne a un fils qui s'appelle Louis le Pieux ou Louis le Débonnaire. Et il a 3 petits-fils qui s'appellent Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire. Et il signe un traité qui s'appelle le traité de Verdun en 843. Et ce traité de Verdun est écrit en quelle langue? Eh bien, c'est écrit en langue, n'est pas écrit en latin, n'est pas écrit en francique, c'est écrit en langue romane. Et la langue romane, c'est l'origine du français. Et après, vous avez la Cantilène de Sainte-Eulalie, qui est la première œuvre littéraire française. Et la Cantilène de Sainte-Eulalie, moi, je m'imaginais que c'était quelque chose comme la chanson de Roland, pas qu'il y avait 3000 vers. Il y a 29 vers dans la Cantilène de Sainte-Eulalie. Et toute la littérature sort de ça. Alors, c'est un trésor, la langue. Il faut la conserver. Il faut pas la laisser aller dans tous les sens. L'académie s'occupe de ça. Mais la littérature, elle s'en fiche complètement. Et vous savez, quelquefois, on me dit, la question qui m'est posée, on m'a posé depuis un an et demi, on ne m'a posé que 2 questions. La première, c'est, je ne sais pas si vous avez vu, peut-être quelque chose comme ça. Quelles sont vos relations avec Ophélie Winter? Ça, c'était une question.
Bon. La couverture d'un magazine.
La couverture de quoi? Je ne sais plus de quoi. 2e question, qu'est-ce que vous pensez de Madame la ministre ou de Madame le ministre? Alors, les ministres veulent Madame la ministre. L'Académie française, pour des motifs très honorables, veulent Madame le ministre. On pourra en parler pendant 2 heures. Et Madame le ministre, c'est que c'est une fonction, c'est qu'en français, le masculin représente le neutre, qu'il n'y a pas de neutre en français, et donc que la fonction est marquée par le neutre. Et je crois que ces arguments sont tout à fait sérieux. Et alors on disait, si vous mettez Madame la ministre, quand la ministre sera remplacée par le ministre, tout ce qu'elle aura écrit sera frappé de nullité constitutionnelle. Bon, alors tous ces arguments me paraissent très sérieux. Si vous me demandez le fond de ma pensée, je vous dirais qu'à l'égard de Madame la ministre ou de Madame le ministre, j'adopte la position de Pascal à l'égard des grandeurs d'établissement. C'est-à-dire que si Madame Aubry ou Madame Ségolène Royal veulent qu'on les appelle Madame la ministre, contrairement peut-être à l'Académie française, parce que je suis extraordinairement bien élevé, je les appellerai comme elles veulent. Mais je m'en fiche complètement. La réponse à ma question, c'est que je m'en fiche complètement. Appelez-vous ça comme vous voudrez. Appelez ça comme vous voudrez. Il n'y avait pas une chanson de Chevalier qui s'appelait comme... Appelez ça comme vous voudrez, moi je m'en fiche. Voilà. Et en tout cas, ça a peu de rapport avec la littérature.
Alors, on revient à la littérature, mais pas. Mais je vous suis dans vos sinuosités, voilà. Dans vos écarts, n'est-ce pas? On revient à la littérature précisément à propos de ça. Le ministre, la ministre, etc. Vous avez rappelé tout à l'heure le rôle déterminant que vous aviez joué dans l'élection de Marguerite Yourcenar à l'Académie française. Ça a donc été le premier écrivain femme académicien, la première académicienne, je sais pas comment il faut dire. Toujours est-il qu'une chose m'a frappé dans ce volume, comme dans le premier volume, naturellement, le côté subjectif, n'est-ce pas, le côté personnel dans le plaisir. Vous venez de dire quel rôle vous attribuiez au plaisir en littérature. Le côté subjectif, le côté personnel, les souvenirs personnels, les anecdotes personnelles sont très présentes dans le livre, mais elles ne sont pas toujours attendues. Elles sont pas toujours ce qu'on penserait qu'elles pourraient être. Par exemple, quand j'ai commencé le chapitre consacré à Marguerite Yourcenar, me rappelant le rôle que vous avez joué, comme vous vous êtes battu, vous venez de le dire, pour qu'elle soit élue, je pensais avoir affaire à un chapitre extrêmement élogieux. C'est un des plus réservés du livre, c'est un des plus réticents du livre, le chapitre consacré à Marguerite Yourcenar. Et quelqu'un comme Sartre, qui n'est pas du même bord politique que vous, vous le considérez comme un très grand écrivain. Marguerite Yourcenar, que vous avez fait élire à l'Académie française, on n'a pas du tout le sentiment que vous la considériez comme un grand écrivain. Alors, c'est paradoxal.
Alors, je voulais répondre à toutes vos questions. D'abord, alors, maintenant, les femmes sont admises à l'Académie. Si l'une d'entre vous, mesdames, veut se présenter, vous avez toutes les chances, tout va très bien. Alors, quand même, il y a un certain nombre de paradoxes, n'est-ce pas ? Nous avons accepté les femmes, mais nous les appelons, nous continuons à les appeler messieurs. Messieurs ! Vous savez, mon ami Jean-Marie Roire a été élu à l'Académie et il m'a dit « Comment est-ce que je commence mon discours ?» Je lui ai dit « Écoute, tu dis peut-être pas mesdames, messieurs, parce que mesdames, messieurs, je reconnais que c'est un peu difficile. Mais j'aurais commencé mon discours avec messieurs et puis je me serais tourné, il a été reçu par madame Carrère d'Encausse. Puis je me serais tourné vers la personne qui le recevait et j'aurais dit « Madame bah. ». Et l'Académie a dit non, 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 nous restons à messieurs. Alors j'ai dit, alors nous avons des académiciennes, mais nous les appelons messieurs. Et on a dit oui, c'est ça. Oui, voilà, alors ça c'est le bon. Alors, maintenant sur subjectif et objectif. Alors, en effet, il y a eu, avant cette autre histoire de la littérature, il y a eu plusieurs histoires de la littérature. Il y a eu l'histoire de la littérature de Paul Guth, qui n'est pas sans mérite. Il y a eu une merveilleuse histoire de la littérature, qui était l'histoire de la littérature de Kléber Hédens. Mais elle est absolument partiale. C'est un instrument de combat. Kléber Hédens, que j'aimais beaucoup, était un homme de droite ou d'extrême droite. Et il déteste Hugo, il déteste Zola, il déteste Peggy. Et évidemment, moi, j'ai une grande admiration pour Hugo et j'ai découvert de grands écrivains qui sont Zola, qui est un écrivain admirable, et Rousseau, qui est un écrivain formidable. Et donc, j'ai essayé à la fois d'être en effet subjectif par le ton, par la liberté. Je dirais que je ne parle pas des vivants dans mon livre parce que c'est trop difficile de faire la part de la mode. Le temps n'est pas passé sur les vivants. Mais je traite les morts comme s'ils étaient vivants. Mais en même temps, j'essaye de fournir, notamment aux jeunes gens, un certain nombre d'informations aussi objectives que possible. Et souvent, on me dit, mais est-ce que c'est romancé, votre histoire là ? Pas du tout. Tout ce que je raconte, sauf erreur et ou omission, il y a quelques erreurs dans mon livre, et j'en demande pardon d'avance, tout est exact, tout est vrai. Et j'essaye à la fois de garder une certaine objectivité à l'égard des grands écrivains, c'est pas du tout un jeu de massacre, mon livre, et de conserver la liberté de jugement. Alors, liberté de jugement. Vous avez pris l'exemple de Ursenard et de Sartre. Prenons-les. Marguerite Ursenard est un grand écrivain. Et si j'ai fait ce que j'ai pu pour la faire élire à l'Académie, ce n'était pas du tout par féminisme, c'était parce que je trouvais inacceptable qu'un grand écrivain ne soit pas accepté à l'Académie uniquement parce que c'était une femme. Je trouvais ça, mais intolérable. C'est un grand écrivain. Quel est son avenir ? C'est très difficile à dire. Je fais le pari que Aragon sera lu dans 100 ans. Parce qu'il a écrit des vers stupéfiants, d'une beauté incroyable. Aragon, c'est comme Hugo, vous l'ouvrez n'importe où, et c'est toujours magnifique. Je ne sais pas si je vous ai déjà cité ces vers il y a un an. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup plus beau dans la littérature française. « Ô mon jardin d'eau fraîche et d'ombre, ma danse d'être, mon cœur sombre, mon ciel des étoiles sans nombre, ma barque au loin, douce à ramer. » Moi, je serais une femme et quelqu'un m'écrirait « Ma danse d'être, ma barque au loin, douce à ramer. » Je crois que je chavirerais, non ? Donc, Aragon, je parie sur lui. Marguerite Ursenard, je me suis dit « Qu'est-ce qu'elle va devenir ?» C'est magnifique, Marguerite Ursenard. Les mémoires d'Adrien, c'est admirable. L'œuvre noire, c'est admirable. Les nouvelles orientales, c'est magnifique. Je ne vais pas vous raconter l'histoire de Wang Fo. Peut-être un mot, Wang Fo est prisonnier de l'empereur de Chine. Wang Fo est un peintre. L'empereur de Chine peint mal, comme les hommes politiques écrivent mal et peignent mal, comme vous savez. Et Wang Fo est empereur de Chine et est jaloux. L'empereur de Chine est peintre et est jaloux de Wang Fo et veut le faire mourir. Et avant de le faire mourir, il veut qu'il peigne un dernier tableau. Et dans sa cellule, Wang Fo peint une mer merveilleuse avec un bateau qui flotte sur cette mer. Et Wang Fo va mourir. L'empereur vient le voir une dernière fois. L'empereur est fou de jalousie devant l'admirable tableau de Wang Fo. Et il dit qu'on l'exécute. Et au moment où on va l'exécuter, Wang Fo se jette dans la mer qu'il a peinte, monte sur le bateau qu'il a peint et s'en va. Alors vous voyez, c'est la force de l'art contre le monde, et c'est absolument magnifique. Et je me suis dit, quand même, il y a une faiblesse dans Marguerite Ursenard. Et quelle est cette faiblesse ? C'est que c'est tout le temps peut-être un peu trop beau. Il n'y a chez Marguerite Ursenard pas l'ombre d'humour. Il y a un humour formidable chez Hugo, formidable. Je ne sais pas si c'est un pastiche ou c'est de lui, on ne sait plus finalement. Il dormait quelquefois à l'ombre de sa lance, rejet, mais peu. Eh bien, chez Marguerite Ursenard, il n'y a pas l'ombre de distance à l'égard d'elle-même. Il n'y a pas l'ombre d'humour. Et tout le temps, c'est une littérature très solennelle, un peu en toge. Et comment est-ce qu'on appelle une littérature comme celle-là ? Eh bien, par un juste revanche des choses. Peut-être qu'on appelle ça une littérature un tout petit peu académique. Il y a un peu d'académique chez Marguerite Ursenard. Et c'est un tout petit peu inquiétant. Alors, Sartre, je ne l'aime pas beaucoup, parce qu'il a pissé sur la tour de Chateaubriand, comme j'expliquais tout à l'heure. Et est-ce que c'est un grand romancier ? Alors, ne me croyez pas sur... Il a écrit un livre merveilleux qui est Les mots. Ne me croyez pas sur parole si je vous dis que son grand roman, Les chemins de la liberté, Le sursis, c'est illisible. Alors, en descendant, allez acheter Les chemins de la liberté, ils vous tomberont des mains. Ils vous tomberont les mains. Alors, est-ce que c'est un très grand philosophe ? Alors, l'être et le néant, c'est très très bien. C'est moins bien que Heidegger. C'est moins bien que Husserl. C'est même moins bien que Jaspers. Et aucun philosophe ne vous dira que c'est mieux que Heidegger ou que Husserl. Heidegger et Husserl existeraient sans Sartre. Sartre n'existerait pas sans Heidegger et Husserl. Et je crois, alors je n'irai pas jusqu'à dire ce que Voltaire disait de Maupertuis, c'est un géomètre pour les écrivains, c'est un écrivain pour les géomètres. Alors je ne dirais pas que c'est un philosophe pour les écrivains et un écrivain pour les philosophes. Je dirais que c'est un admirable témoin de son temps. Voilà pourquoi Sartre risque de rester comme témoin de son temps, plus que comme un grand écrivain.
Bon, je ne suis pas du tout d'accord avec vous.
Vous n'êtes pas d'accord?
Pas du tout.
Je serais
je pense que c'est ni un grand romancier, ni un grand témoin.
Et je
serais tout à fait prêt à reprendre à mon compte la phrase de Villiers de l'Isle-Adam, n'est-ce pas? C'est de Villiers, la phrase.
Oui.
Voilà. En remplaçant Dante par Sartre, n'est-ce pas?
Bon. Ah oui. J'irais plutôt dans votre sens.
Bon.
Mais quand même, il a quand même joué un rôle immense dans notre temps.
Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais enfin bon.
Mais c'est vrai.
Écoutez, Jean, quand on met en avant et quand on a comme critère principal le style,
il y en a aucun.
Expliquez-moi ce que c'est que le style de Sartre. Hein.
Bon.
Je voudrais revenir à Marguerite Yourcenar. Et c'est quand même paradoxal que je sois obligé de prendre la défense de Marguerite Yourcenar. D'abord, je trouve qu'il y avait beaucoup d'humour dans la conversation de Marguerite Yourcenar.
Je
ne l'ai pas rencontré personnellement, mais je l'ai vu comme tout le monde très souvent à la télévision. Elle, dans ses réponses et dans son entretien oral, il y avait beaucoup d'humour, même dans son regard d'ailleurs. L'humour est assez absent de l'œuvre, ça c'est sûr. Mais le côté, ce que vous appelez le côté drapé ou le côté en toge, il existe, en tout cas on a reproché cela à Monterland. Et justement chez Monterland, ça ne vous déplaît pas du tout.
Alors, résumons notre débat, si vous voulez. Résumons notre débat. Nous allons mettre Marguerite Yourcenar au-dessus de Sartre comme écrivain. D'accord ?
Aucun doute.
Si nous partons pour une île déserte, nous n'emportons ni l'un ni l'autre. D'accord ? Nous emportons les Mémoires d'Outre-Tombe, ou nous emportons Toulet, ou nous emportons le journal de Jules Renard. Nous emportons quelqu'un qui allie évidemment le plaisir au style.
Alors, on va donner la parole au public, mais j'ai quand même beaucoup d'autres questions. Enfin, je ne vais pas les poser toutes, mais quand même. Alors, on est à Bordeaux. Vous avez dit votre plaisir d'être à Bordeaux. Vous avez évoqué, ou cité en tout cas Montesquieu, Montaigne et même Mauriac. Et il y a un chapitre consacré à Mauriac, ce qui m'a fait bien plaisir. Je voudrais vous poser une question très précise sur ce chapitre. Alors là, je vais prendre mes lunettes, chercher la page 265. Vous parlez donc de... Là, vous parlez de l'œuvre, effectivement. Vous
prenez vos lunettes, je mets mon sonotone pour vous écouter.
Et vous parlez du rôle que tient dans l'œuvre de Mauriac l'odeur des pins, le sable des landes et les passions bordelaises. Alors, je me suis demandé ce que c'était que les passions bordelaises. Je croyais que nous avions les passions de tout le monde.
Mais non, on ne croyait pas ça.
Il y a des passions bordelaises spécifiques.
Alors, vous voulez que je vous dise ce que c'est que les passions bordelaises sous l'angle de Mauriac? Eh bien, d'abord, les passions bordelaises sont liées au fait... Alors, dites-moi si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai que... À cause de motifs historiques, parce que le prince noir était ici, parce que les Anglais aiment beaucoup le vin de Bordeaux, les grandes familles de Bordeaux portent toutes des prénoms anglo-saxons. Est-ce que c'est vrai ? Bon, enfin, dans l'œuvre de Mauriac, ça apparaît souvent. Et il y a un livre qui est consacré à ce domaine de Mauriac que vous avez lu, qui s'appelle Préséance. N'est-ce pas, où...
C'est son plus mauvais livre et il le reconnaissait.
Hein ?
C'est son plus mauvais livre
et
lui-même le reconnaissait.
Oui, il le reconnaissait. Mais où on voit un peu des ambitions, un peu, ce snobisme bordelais, quelquefois. Et il y a aussi ces... J'avais écrit jadis un article où je sais pas si je reprends la formule là, où on dit dans ces grandes familles bordelaises, la soupe, le potage familial sent un peu la strychnine. Alors je ne sais pas si c'est lié à Bordeaux, mais c'est en tout cas lié à Mauriac, oui, et au portrait que Mauriac fait de ses passions dans les Landes. Ça sent un peu l'odeur du pain, l'odeur du sable. Il y a un livre très très beau, plus beau sans doute que Préséance, Les Chemins de la Mer,
ah oui,
c'est un livre admirable. Roman. Et il y avait une formule, je la cite de mémoire, donc elle est sûrement fausse, de l'enfant qui va vers la mer et déjà il a le goût du sel sur les lèvres.
Ah oui, oui,
c'est une phrase merveilleuse. Autour de la page 265, vous trouverez ça peut-être, parce que contrairement, vous savez, contrairement aux hommes politiques que vous recevez peut-être ici, qui n'ont pas écrit leurs livres, non seulement ils les écrivent pas, comme vous savez, mais quelquefois ils les lisent pas, ils ont tort de même pas avoir lu leurs livres. Alors on les interroge et ils tombent des nus. Tandis que moi, j'ai lu mon livre, je l'ai même écrit.
Alors voilà, je vous ai trouvé. Il faut la lire cette phrase, elle est admirable.
Elle est belle.
La vie de la plupart des hommes.
Voilà.
La vie de la plupart des hommes.
Je trouve ça admirable. La vie de la plupart des hommes est un chemin mort et ne mène à rien. Mais d'autres savent dès l'enfance qu'ils vont vers une mer inconnue. Déjà l'amertume des vents les étonne. Déjà le goût du sel est sur leurs lèvres jusqu'à ce que la dernière dune franchie, cette passion infinie les soufflette de sable et d'écume, ils restent si abîmés ou de revenir sur ses pas. Alors, je mettais ça sur le compte des plages bordelaises, du sable, des pins, du soleil de cette région. Maintenant, si vous refusez ça, alors refusez la grandeur de Mauriac.
Vous auriez tort. Je suis tout à fait convaincu de la grandeur de Mauriac. Je crois qu'il y a des passions mauriaciennes, mais pas de passions bordelaises.
Dans un cadre bordelais.
Justement, le passage que vous venez de lire, franchit la dernière dune, ça me fait penser à un poème de Toulet. Toulet, vous dites Toulette, je crois d'ailleurs.
Non oui, je non, crois je... que j'avais tort. Je crois que je me suis renseigné et je crois que dans le Béarn on dit Toulet.
Moi j'ai toujours entendu dire Toulet. Donc je vous avais dit la dernière fois, il n'y a pas Toulet. J'espère que vous allez rattraper ça. C'est fait. Et il y a un très très joli chapitre sur Paul Jean Toulet. Et alors vous citez. Un poème de Toulet, justement, où il y a franchi la dernière dune, je me souviens plus. Et grave ses mots sur le sable.
Et grave ses mots sur le sable. Le rêve de l'homme est semblable aux illusions de la mer.
Bon, comme vous êtes très présent dans ce livre, et je me suis dit, il va naturellement rappeler que lui-même a donné comme titre un de ses premiers romans, Les illusions de la mer. Et vous ne le faites pas. Vous ne le dites pas.
Mais mon cher Jean-Marie, vous ne savez pas qu'une de mes vertus les plus précieuses est cette charmante modestie qui m'honore. Et on m'avait demandé, est-ce que vous vous mettrez vous-même dans votre histoire de la littérature ? Et j'ai répondu, je ne pourrais pas me mettre parce que je ne mets que les morts. Et même si j'étais mort, j'hésiterais à m'y mettre. Alors, peut-être je vais vous réciter un petit poème de Toulet. Vous souvient-il de l'auberge et combien j'y fus galant? Vous étiez en piqué blanc, on eût dit la Sainte Vierge. Un cheminot navarrais nous joua de la guitare. Ah, que j'aime la Navarre et l'amour et le vin frais. De l'auberge dans les Landes, je rêve et voudrais revoir l'hôtesse au sombre mouchoir et la glycine en guirlande.
C'était un merveilleux.
Je transmettrai à Toulet.
Y a-t-il des questions dans le public pour Jean d'Ormesson?
Maître, vous êtes sûr du... Vous avez cité Villiers de l'Isle-Adam comme étant sur son lit de mort. Là. J'avais entendu cette histoire et il me semblait que c'était le poète Lope de Vega. Est-ce que je me trompe?
Ah, vous avez raison, je l'ai entendu aussi pour Lope de Vega. Vous savez, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont prêtées aux...
Excusez-moi,
vous avez parfaitement raison, je l'avais entendu aussi pour Lope de Vega. Il y a une histoire que je raconte souvent, on me dit « Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre ?» Et je réponds « 6 mois ». Et il y a une histoire qu'on prête tantôt à Fragonard, tantôt à Renoir. Alors prêtons-la à Fragonard. Fragonard peint le portrait d'un seigneur du 18e et il peint le portrait en 3/4 d'heure. Et il demande, je sais pas, 20 000 livres. Et le seigneur, épouvanté, lui dit « 20 000 livres, monsieur Fragonard, 20 000 livres pour 3/4 d'heure. » Et Fragonard lui répond « 3/4 d'heure, monseigneur, et 30 ans. » Alors, Fragonard ou Renoir, en tout cas, je rendrai à Lope de Vega le mot de Villiers-l'Isle-Adam.
Merci, maître.
Il y a aussi le mot de Barbet, que j'aime tellement, le mot de Barbet sur son lit de mort, qui dit « Eh bien, on s'en souviendra de cette planète. »
Avez-vous retenu Sacha Guitry ?
Non. Non, je n'ai pas retenu, mais je donne souvent Sacha Guitry. Je vous assure, je l'ai fait l'autre jour à la télévision ou à la radio. Je donne souvent Sacha Guitry comme exemple quand on me reproche de ne pas avoir mis de vivant dans mon histoire de la littérature. J'imagine, je donne comme exemple, si nous étions en 1928 ou 1930, et j'imagine qu'il y ait des hommes de théâtre autour de cette table. Et j'imaginais qu'il y aurait Bernstein et Bataille, pas Georges Bataille, l'auteur, mais Henri Bataille, qui était un auteur extraordinairement connu dans les années 1930, et Bernstein, que j'ai encore connu à la fin de sa vie, qui était un colosse de 2 mètres, qui ne plaisantait pas avec sa gloire, hein, qui était l'auteur de pièces... Je crois que toutes ces pièces avaient 5 mots, non ? Ou 6 mots. Le secret, S-E-C-R-E-T. Le secret, je crois qu'il y avait toujours 6 lettres dans les titres. Bernstein et Bataille étaient indéboulonnables. Et si on avait dit à Bernstein et à Bataille qu'ils seraient totalement oubliés, peut-être que Bernstein, on s'en souvient vaguement parce qu'on a tiré un film qui s'appelle Mélo.
Oui.
De qui est Mélo? De René.
De René, on a arrêté.
Que René a tiré Mélo de sa pièce. Et si on leur avait dit qu'ils seraient complètement oubliés et que tous les jeunes gens, à l'aube du 3e millénaire, tous les jeunes gens sans exception, se souviendraient du nom de Sacha Guitry, probablement aussi à cause du cinéma, mais personne ne l'aurait cru. En 1930, Sacha Guitry passait pour un amuseur qui serait oublié, et Bataille passait, et Bernstein passait pour des auteurs qui étaient à jamais immortels.
Est-ce que vous pouvez, puisque vous aimez les anecdotes, nous rappeler, beaucoup de Bordelais la connaissent, mais pas tous, l'anecdote de Bernstein et de François Mauriac?
François Mauriac était... François Mauriac, alors, si on parlait un peu de Mauriac, je dirais qu'il s'est trompé sur sa vocation. Il a d'abord cru qu'il était poète. Oh, les poésies de Mauriac vaut pas grand-chose. Ensuite, il a cru...
Le sandatis, si c'est bien.
Oui, le sandatis. Oui. Il rit d'un rire fou qui blesse le silence. Et après, il a cru qu'il était autant dramatique. Je ne suis même pas sûr qu'il soit un immense romancier. C'est un immense, vous savez ce que c'est? C'est un immense mémorialiste et un écrivain sans, et un journaliste sans pareil. Et je le dis sans mépris, parce que il y a de grands journalistes. Le plus grand des journalistes, je pense que c'est Hugo. Chose vue de Hugo, c'est prodigieux. On pourrait soutenir que Zola est un grand journaliste, Kessel est un grand journaliste, on pourrait soutenir que Voltaire est un grand journaliste, on pourrait soutenir que Hérodote ou Xénophon sont des grands journalistes. Et alors, sur la pièce de théâtre, il avait écrit une pièce, je crois que c'était Le feu sur la terre. Et vous savez, on sent très très bien quand on écrit une pièce de théâtre, je dirais même quand on fait une conférence, on sent très bien si ça passe ou si ça ne passe pas. Et Mauriac avait tout de suite compris que Le feu sur la terre ne serait pas un immense succès. Et il rencontre, à l'entracte, il rencontre Bernstein. Et Bernstein, avec un sourire de carnassier, lui dit « Alors, Mauriac, vous êtes content ?» Et Mauriac, avec la voix que vous connaissez, lui répond « Moins que vous !» Et je peux vous dire que j'étais dans le hall du Figaro avec Mauriac. Souvent, je me dis « Oh mon Dieu, je n'ai connu aucun des écrivains dont je parle. Je n'ai pas connu Sartre. Je n'ai pas connu Simone de Beauvoir. » Mais je me dis finalement, j'ai très bien connu Monterland, j'ai très bien connu Morand, j'ai très bien connu Mauriac, j'ai très bien connu Caillois, j'ai connu Cioran, j'ai connu Pérec. Finalement, c'est pas si mal. Et alors je suis avec Mauriac et nous voyons en face de nous passer un écrivain dont je ne vous dirai pas le nom. Et il avait fait du ski et il s'était cassé le pied. Et il avait le pied dans le plâtre. Et il s'avance vers nous. Mauriac s'avance vers lui avec un grand sourire. Elle va être très aimable avec lui. Mais avant, il me glisse à l'oreille. Ça va le gêner pour écrire. J'attends, non ? Ça va le gêner pour écrire.
Alors, madame vous demande ce que vous pensez de Barrès, puisque justement vous avez dit tout à l'heure que vous admiriez beaucoup Barrès et qu'il serait peut-être dans le...
C'est un de mes remords de n'avoir pas mis Barrès dans ce livre. Sade, Vauvenargues, Sade, France, Barrès, Drieu, Blondin, voilà mes regrets. Et d'un mot, bon, on peut un mot, un seul sur Barrès, on peut dire que le romantisme s'ouvre avec Rousseau. Hein. Rousseau a deux enfants, un de gauche et un de droite. L'enfant de gauche, évidemment, c'est Robespierre. Et Robespierre est un fils fidèle de Rousseau, le culte de l'être suprême sort tout droit du vicaire savoyard. Et Rousseau a un enfant de droite qui est Chateaubriand. Et le romantisme commence grâce à Chateaubriand, grâce au jeune Hugo, commence à droite. Le romantisme débutant est catholique et conservateur. Et Hugo est catholique et conservateur. Et puis peu à peu, grâce à Hugo, le romantisme va passer à gauche, surtout à cause de l'opposition de Hugo au Second Empire et au ralliement de Hugo à la République. Et Chateaubriand, à son tour, aura comme enfant naturellement Hugo, Lamartine, Vigny, Musset, Flaubert, Baudelaire. Je défendrai l'idée que Lautréamont est un enfant de Chateaubriand. Je suis sûr que Lautréamont, qui meurt à 20 ans, a lu évidemment non seulement Homère et Milton. Et, vous savez, quand on parle de révolution, Lautréamont est aussi nourri de textes classiques et sûrement de Chateaubriand. Et Chateaubriand, au loin, a deux arrière-petits-enfants. Et l'un est de gauche et l'autre est de droite. Et l'arrière-petit-enfant de gauche de Chateaubriand, évidemment, c'est Aragon. Et la parenté de Chateaubriand et d'Aragon est évidente. Et l'arrière-petit-fils de droite de Chateaubriand, c'est évidemment Barrès. Et évidemment, j'ai des remords et des regrets de ne pas avoir mis Barrès dans mon histoire.
On peut avoir des regrets de ne pas trouver tel ou tel écrivain dans ce livre. C'est vrai que j'ai été surpris, je vous l'ai dit, Cocteau ou d'autres.
Cocteau
n'y soit pas. Mais alors, on a aussi vraiment de bonnes surprises, c'est d'y trouver des écrivains que l'on aime et qui apparaissent souvent appartenir peut-être pas au premier rayon de la littérature. Et j'ai été ravi de découvrir un chapitre consacré à Maurice Leblanc. Et je voudrais lire une phrase que je trouve que, qu'est-ce que vous voulez, tout est dit là, sur la séduction qu'exerce Lupin auprès des lecteurs. Vous écrivez, on voit bien d'où vient son succès, il incarne à la fois et en bloc nos rêves souvent contradictoires de liberté, de justice, de transgression et d'ubiquité. C'est effectivement, ça, c'est ce qui fait qu'on aime Lupin.
N'est-ce pas, si vous interrogez des gens, là, dans la rue, et vous dites, citez-moi des héros de romans, je pense qu'on commencerait par Athos, Porthos, Aramis, D'Artagnan, et puis peut-être Gavroche ou Jean Valjean. Et puis, je suis sûr, Arsène Lupin, et vous ne trouverez Arsène Lupin dans aucune histoire de la littérature, alors dans aucune. Et je me suis dit qu'il méritait bien une page. Maurice Leblanc s'est inspiré d'un personnage qui a existé, qui s'appelait Marius Jacob. Et Marius Jacob était un gangster très, très amusant, qui a cambriolé, par exemple, une villa en Normandie, ou en Charente, plutôt, en Charente, je crois. Et en la cambriolant, il aperçoit qu'il est chez un type qui s'appelle Julien Viaud. Ça ne lui dit pas grand-chose. Et puis, il comprend que Julien Viaud a un pseudonyme et que c'est la villa de Loti, de Pierre Loti, qu'il est en train de cambrioler. Alors, il se met à la table et il dit « Monsieur, je ne cambriole pas la maison d'un grand écrivain. À chaque métier mérite son salaire. J'ai brisé un verre, j'ai brisé une vitre par effraction. Voici 10 francs pour réparer mes dégâts. » Et il laisse 10 francs. Et puis, il cambriole un château d'un nouveau riche et il laisse un mot avec « Je reviendrai quand vos meubles seront authentiques. » Ça, c'est le modèle de Lupin.
Question pour Jean d'Ormesson. Oui, mademoiselle.
Donc, vous parlez de biscuits de réserve pour ces auteurs du deuxième tome. On pense à l'enfant qui essaye d'attraper des biscuits sur une étagère. Est-ce que la littérature, c'est ça? Est-ce que seulement quelques-uns, les grands, peuvent l'atteindre?
Attendez.
Moi, je n'ai pas très bien compris. Donc, est-ce que vous pouvez...
Non, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas que vous n'êtes pas clair. C'est que je suis sourd. C'est que je suis sourd.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Oui. Oui. Mais vous savez, je vais vous raconter une brève histoire. J'ai été voir quand même un type, un médecin, là, un otorino. Et alors, je lui ai dit, vous savez, j'ai l'impression quand même que je commence à entendre moins bien. Alors, il m'a examiné, il m'a dit deux choses. D'abord, pour votre âge, c'est pas si mal. Et deuxièmement, c'est pas que vous n'entendez pas, c'est que vous ne comprenez pas. Alors, ne vous inquiétez pas. Ou inquiétez-vous, mais pour moi.
J'espère me faire comprendre.
Oui.
Vous présentez donc dans votre avant-propos les auteurs de ce deuxième tome comme des biscuits de réserve. Et moi, ça me fait penser un peu à cet enfant qui essaye d'attraper, je ne sais pas, des biscuits de réserve sur une étagère qui est trop haute pour lui.
Ah oui.
Est-ce que la littérature, c'est ça? Est-ce que les grands de la littérature française, maintenant, est-ce qu'il faut être grand pour pouvoir les atteindre et pour pouvoir les comprendre?
Je comprends bien ce que vous voulez dire. Vous trouvez, peut-être qu'il y a en effet d'abord quelque chose d'un peu maritime et d'un peu commercial dans l'image que j'ai prise des biscuits de réserve. Ce que je voulais dire avec les biscuits de réserve, c'est que je ne voulais pas mettre dans le premier tome tous les auteurs que j'aimais. J'aurais pu, sachant qu'il y aurait deux tomes, j'aurais pu faire un premier tome des origines au romantisme, un deuxième tome du romantisme à nos jours. Mais c'est exactement ce que je ne voulais pas faire. Je ne voulais pas faire une sorte d'histoire de la littérature scolaire. Je voulais faire une autre histoire de la littérature. J'ai fait donc une espèce de première promenade où je n'ai pas mis tous les auteurs que j'aimais, et j'en ai gardé, en effet, quelques-uns, des biscuits de réserve qui étaient... C'est pas parce qu'ils étaient trop hauts pour les atteindre. Je voulais en garder quelques-uns pour que le deuxième volume n'apparaisse pas comme un deuxième choix. Et c'est dans les deux volumes, on ne peut pas dire que je préfère ceux du premier volume à ceux du deuxième volume. Alors maintenant, d'être la taille qu'il faut avoir pour atteindre les biscuits, je dirais que ce qui est important, et c'est ça à quoi j'ai pensé en écrivant cette haute histoire de la littérature, c'est pas qu'il s'agit d'être grand pour atteindre des biscuits, il faut savoir ce qu'on aime comme biscuit. Il me semble que ce qui est important pour chacun d'entre nous, c'est de lire ce qu'on aime. On retrouve là la notion de plaisir. Vous n'êtes pas obligé d'aimer en bloc toute la littérature française. Si vous n'aimez pas Sartre, ne le lisez pas. Si vous n'aimez pas Ursenard, ne le lisez pas. Essayez de trouver ce que vous aimez et lisez-le. Mais la difficulté est de trouver ce qu'on aime. C'est compliqué de savoir ce qu'on aime. Moi, j'ai mis une vie entière à trouver ce que j'aime. Et ce que j'ai essayé de faire dans ces deux volumes, au fond, c'est de vous apporter des échantillons. Et c'est pour ça que je fais le plus de citations possible. C'est pour ça.
Oui, il y a beaucoup plus de citations que dans le volume précédent.
Oui, j'ai essayé que ce soit en même temps une anthologie, de façon que vous puissiez choisir sur échantillon ce que vous aimez et que vous vous reportiez ensuite à ce que vous avez préféré pour aller aux œuvres mêmes et pour les lire.
Juste un dernier mot, et puis après vous allez signer les livres. Un dernier mot à propos de votre prétendue surdité. Est-ce que je me trompe? Vous allez me reprendre. Est-ce qu'il n'y a pas un mot très célèbre de Talleyrand sur Chateaubriand? Talleyrand demandait des nouvelles de Chateaubriand. On lui dit, oh, il vieillit, il se plaint de devenir sourd. Et Talleyrand répond, il devient sourd depuis qu'il n'entend plus parler de lui.
C'est tout à fait vrai.
C'est ce qui vous arrive? Non.
Est-ce que je répondrai avec suffisance? Il me semble que j'entends encore parler de moi.
Merci, Jean d'Ormesson.
Merci à vous.